France Info.
Et à la une de ce 10 mars, Donald Trump qui assure donc que la guerre en Iran va se terminer. Bientôt, déclaration du président américain lors d'une conférence de presse. L'essentiel à retenir arrive dans un instant. À venir aussi dans ce journal, des témoignages d'Iraniens à Téhéran alors que cette guerre se poursuit pour l'instant et qu'elle touche durement la capitale. Nous serons dans une station-service en France où le prix du carburant s'envole et où des contrôles sont menés par la répression des fraudes. Et puis, une découverte à venir en France, un extrait de la plus vieille copie d'un traité d'Archimède, le savant grec. Elle a été retrouvée à Blois. La guerre va-t-elle bientôt se terminer ou va-t-elle durer? Donald Trump assure qu'elle touche à sa fin, mais le président américain a tout de même entretenu l'ambiguïté lors de sa prise de parole en Floride, Franck Madvon.
Le discours est le même depuis les premiers jours de la guerre. Nous sommes en train de gagner de manière très décisive. Donald Trump dresse un bilan lourd pour l'Iran, missiles détruits, capacité à en produire nettement réduite, marine anéantie, dirigeants tués. L'armée américaine est très en avance, à en croire son président, qui dit tenir sa promesse d'un Iran sans armes nucléaires. L'Iran aurait pris le contrôle du Moyen-Orient et aurait tenté de détruire Israël, affirme Trump. L'opération va-t-elle donc s'arrêter cette semaine, demande une journaliste. Non, mais très bientôt. Donald Trump qualifie ce conflit d'excursion. Et pourtant, donc, il n'est pas encore question de stopper la guerre. Un peu plus tôt, devant des élus républicains, il déclarait on a déjà gagné à bien des égards, mais on n'a pas gagné assez. Le principal objectif pour Trump est de s'assurer que l'Iran ne pourra plus menacer les États-Unis ou Israël. Un objectif suffisamment imprécis pour que les aléas de la guerre ne contredisent pas le récit du président.
Merci Franck Madvon, correspondant à Washington de France Info. En Iran, en tout cas, ces frappes, elles se poursuivent. 5000 cibles ont été visées par les États-Unis selon Donald Trump depuis le début de la guerre et les Iraniens se retrouvent pris en étau entre d'un côté ces frappes menées par les États-Unis et Israël et de l'autre, la répression toujours très rude du régime. Camille Marigot, vous avez pu joindre une habitante pour France Info, une habitante de Téhéran.
Jaleh a 27 ans, elle vit à Téhéran et décrit les pluies de pétrole tombées sur la ville après les frappes sur plusieurs dépôts ce week-end. Par sécurité, nous avons brouillé sa voix.
Quand nous nous sommes réveillés, tout le monde regardait sa montre et se demandait si c'était le matin ou la nuit. Ma voiture blanche est devenue noire comme du charbon, recouverte de poussière. Le sol, tout est devenu noir.
Quand les attaques surviennent, dit-elle, tout votre corps tremble. C'est effrayant. Son quotidien, ce sont aussi les points de contrôle à chaque rue.
Sur les trajets courts, il y en a 3, voire 4. Vous les voyez avec des gros fusils. Ils ont le visage couvert et vous arrêtent, braquent une lampe dans la voiture. Ils nous ont arrêtés et nous ont demandé si nous avions un ordinateur portable. Nous avons répondu non. Ils nous ont dit de continuer notre route.
Quant à Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, élu nouveau guide suprême ce dimanche,
les gens sont un peu découragés, pas désespérés, mais ils sont tristes. Ils attendent que lui aussi soit tué.
Mais est-ce que cela apportera pour autant la paix? Non, répond-elle. Pas du tout.
Un témoignage recueilli pour France Info par Camille Marigot. Il est 5h03. Quel rôle pour la France dans ce conflit au Moyen-Orient? Emmanuel Macron, en tout cas, a voulu montrer les muscles de la France hier sur le porte-avions Charles de Gaulle dépêché en urgence à l'est de la Méditerranée. Le chef de l'État qui envisage notamment une mission dans le détroit d'Ormuz, quasiment bloqué par le conflit, alors que 20% du pétrole consommé dans le monde y transite normalement. Marie Mollet, vous avez suivi cette visite du chef de l'État sur le Charles de Gaulle pour France Info.
La mer Méditerranée est partout tout autour, la crête à quelques kilomètres et dans le ciel, un hélicoptère qui se pose sur le bitume du porte-avions.
Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, monte à bord.
Emmanuel Macron à quelques pas des avions Rafale stationnés sur le pont avant de s'engouffrer dans le hangar, le ventre du porte-avions. Là, discours au milieu de 500 militaires de la marine au garde-à-vous. Que les images sont belles pour célébrer la puissance militaire française venue en renfort de Chypre en tout premier, vante-t-on dans l'exécutif. Emmanuel Macron venu donc consolider sa position de leader de la défense européenne, mais sans combattre, position défensive, un équilibrisme répété devant les militaires du Charles de Gaulle.
Nous ne participons pas à un conflit en cours. La France est là
pour protéger les siens, pour être aux côtés de ses alliés qui sont frappés.
Et le président français a esquissé hier une mission à la mesure du Charles de Gaulle, une possible opération internationale pour rouvrir le détroit d'Ormuz.
L'objectif, ce serait de manière totalement pacifique de pouvoir escorter des tankers et de rouvrir la route.
Mais ses contours restent incertains, pour l'instant, sur les pays qui pourraient y participer, sur le moment aussi, dans ce conflit qui peut durer, assurait hier Emmanuel Macron.
Merci Marie Mollet avec la situation autour du détroit d'Ormuz. Pour l'heure, on l'a compris, l'incertitude règne sur le cours du pétrole. Après une flambée des prix sur le marché il y a 24 heures, le baril est finalement revenu à un niveau bien plus bas, moins 10%, mais à la pompe, eh bien, le carburant coûte bien plus cher depuis quelques jours. La barre des 2 euros le litre est allègrement dépassée par endroits. Les agents de la DGCCRF, la répression des fraudes, ont d'ailleurs commencé hier leur tour des stations. Un plan exceptionnel de 500 contrôles a été ordonné par le Premier ministre pour éviter, je cite, des hausses abusives des prix. Sauf que, eh bien, ces agents, ils ne vérifient pas la construction des prix à la pompe qui sont fixés librement. Ils contrôlent simplement, Caroline Félix, si le pompiste affiche assez clairement ses prix. Exemple en Essonne, à Chilly Mazarin.
Dan, inspecteur de la DGCCRF, brassard fluo au bras, photographie l'écran de la pompe.
On vient s'assurer donc directement à la pompe si le prix pratiqué, donc on voit affiché avec le prix du litre, on vient s'assurer que ce prix correspond bien au prix affiché sur le site du gouvernement.
1,80 pour le samplon 95, 2 euros le diesel, c'est bien ce que la station indique sur le site prixcarburant.gouv.fr.
La station-service est aux normes.
Et voilà, le contrôle est quasi fini. Dan va aussi vérifier les anciens affichages de prix de cette station. Il ne contrôle donc pas les tarifs en eux-mêmes. Jean-Claude aurait bien aimé, car en faisant son plein, il se pose des questions.
Ce serait bien aussi de contrôler les marges, parce qu'ils dépassent pas les... Enfin, ils vont pas au-delà de ce qui est possible. Donc si on n'encadre pas les prix, en fait, ils vont faire ce qu'ils veulent.
Mais il trouve aussi utile de vérifier que les données remontées par les stations soient fiables, car elles sont utilisées par des applications comparatives comme celle d'ADEME.
Je peux regarder tous les prix des stations qui sont à côté.
Ce livreur l'utilise beaucoup en ce moment.
On n'a pas besoin de se déplacer en station et de regarder autour.
Ça vous évite de faire des tours, quoi.
Exactement, et du coup, consommer du gasoil et perdre du temps aussi.
Les prix de son application sont vérifiés, mais tout de même en hausse. ADEME a payé son plein 10 euros plus cher que la semaine dernière.
France Info, reportage en Essonne, signé Caroline Félix. Et nous allons revenir très longuement tout au long de ce 5-6 sur la situation, sur la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences économiques pour le monde et pour la France. Nous allons y revenir largement. Répétons-le dans l'actualité également à 5h07 sur France Info, les Jeux Paralympiques de Milan-Cortina. Après les médailles d'argent et de bronze d'Aurélie Richard et Jules Segère hier en Super G, une nouvelle chance de médaille française aujourd'hui en Super Combiné pour Arthur Bauchet, le tenant du titre. On suivra ces épreuves qui commencent à 9h ce matin. Et puis c'est un trésor qui a été retrouvé à Blois dans le Loir-et-Cher, une page d'un traité d'Archimède découverte dans les collections du musée des Beaux-Arts, un feuillet issu de la plus ancienne copie de l'ouvrage du célèbre mathématicien grec, la fameuse poussée d'Archimède. Ce document, il était pourtant considéré comme perdu. C'est un chercheur français qui l'a identifié, Boris Allier.
La principale difficulté pour Victor Gisembert, chercheur au CNRS, c'est que cet ouvrage, écrit au Xe siècle, a en partie été effacé deux siècles plus tard.
Le parchemin, c'est un matériau assez précieux. Il s'agit de peau d'animal. Donc parfois, on n'avait pas de parchemin ou bien c'était trop cher et on recyclait ce qu'on avait sous la main. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le texte grec. Et sur l'autre face, une enluminure qui représente le prophète Daniel entouré de deux lions.
Ce spécialiste de la pensée antique a malgré tout identifié sous le texte de prière des figures géométriques et une écriture qui correspond au palimpseste d'Archimède, la plus ancienne copie des traités du savant grec.
On a affaire à des démonstrations géométriques très pointues.
Ce feuillet retrouvé à Blois a, semble-t-il, été égaré au cours des échanges entre collectionneurs au XXe siècle entre Constantinople, l'actuel Istanbul, Paris et les États-Unis où l'ouvrage est aujourd'hui conservé. Mais deux autres pages manquent à l'appel.
On en a retrouvé une et il en reste deux pour lesquelles le jeu de piste continue.
Et l'historien veut maintenant mobiliser des technologies de pointe pour tenter de révéler le texte masqué par l'enluminure.
Merci beaucoup Boris Allier pour cette découverte dans le 5-6 de France Info. Il est 5h09 et c'est l'heure de votre météo, Christine Peña, avec une semaine qui va rester perturbée.
Oui, on a un petit changement de temps là avec cette bascule. circule du flux, un flux d'ouest, ça y est, plus humide, qui va nous apporter pas mal de pluie. Hein. Aujourd'hui, ce sont des averses intermittentes, surtout situées sur l'est du pays. Demain, les pluies seront plus marquées et durables. Jeudi, petit repos avec le retour du soleil, mais ce ne sera que provisoire, puisque dès vendredi, des ondes pluvieuses seront de retour. Et puis, comme l'ambiance sera bien rafraîchie, on aura certainement de la neige jusqu'à basse altitude.
Merci beaucoup, Christine Peña, 5h10.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info. Cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 5h20 et 10h50 sur France Info.
Au programme d'ici 5h30 sur France Info, nous reviendrons sur le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Paris hier soir pour soutenir sa candidate Sophia Chikirou pour la mairie de la capitale. On le rappelle, les municipales, c'est dimanche qui vient, celui qui arrive. D'abord revenons sur cette prise de parole de Donald Trump sur la guerre en Iran.
France Info, 5h-6h, William DeCosta.
Le président américain qui assure que la guerre va bientôt se terminer, que son opération est bien en avance sur le calendrier. Si cela recommence, les Iraniens seront encore plus durement touchés, répète Donald Trump. Mais une fois encore, son discours était rempli de contradictions. D'un côté, il assure que la guerre va bientôt s'arrêter, mais son administration, elle, évoque seulement un début. Voilà l'analyse de Gareth Martin sur cette prise de parole. Il est politologue à l'American University de Washington.
Si on s'attendait à des éclaircissements de cette conférence de presse, on va être déçu. Hein. La seule continuité pour l'instant, c'est vraiment le manque de... Enfin, c'est la contradiction permanente au sein même de l'administration. Par exemple, ça a été mentionné, hein, le secrétaire de la Défense qui parlait du début seulement des opérations, alors que président Trump semblait suggérer qu'ils étaient bien en avance sur les délais. Même les arguments mis en avant semblent parfois élastique ou pas toujours crédible, hein. Donc l'idée que l'Iran s'apprêtait à attaquer les États-Unis, on n'a pas vraiment vu d'argument qui prouve cela de manière conclusive. Même l'idée que l'Iran s'apprêtait à dominer le Moyen-Orient, qui a été un argument aussi mis en avant, aussi est surprenant, hein, vu que l'Iran était relativement affaibli ces dernières années. Donc on n'en sort pas beaucoup plus convaincu ou même très clair par rapport à les intentions exactes de l'administration.
Que pense l'opinion publique américaine ? On a l'impression que le président américain essaye finalement de jouer un petit peu sur les deux tableaux, sur le plan intérieur, en essayant de rassurer les marchés, en disant que la guerre était bientôt terminée. Ça a d'ailleurs fonctionné avec Wall Street qui a terminé en haut. C'est une légère baisse des prix du pétrole. Et puis de l'autre côté, des réactions un peu plus approximatives sur le plan militaire.
Enfin, l'opinion n'est vraiment pas convaincue du bienfait de cette guerre, hein, parce que bon, évidemment, dans un contexte extrêmement divisé et polarisé, c'est très très difficile de convaincre les démocrates de toute façon. Donc déjà, il y a ça ils sont déjà perdants de ce niveau-là. Même au sein des républicains, il y a quand même une partie de la coalition MAGA qui était vraiment pas convaincue par une politique étrangère qui est aussi, on va dire, en avant, qui voudrait beaucoup plus que le président se concentre sur les problèmes économiques. Et puis, il y a les indépendants, qui sont pas forcément un grand groupe, mais qui sont généralement aussi opposés. Alors oui, certes, peut-être que le président peut réussir à limiter un peu certains des soucis, que ce soit les marchés ou même les citoyens. Mais bon, les citoyens voient quand même que le prix du pétrole augmente. Ils le voient quand ils vont remplir l'essence pour leur voiture. Donc il y a une difficulté quand même à convaincre un public qui ne comprend pas exactement l'intérêt ou même le besoin un conflit militaire maintenant.
Gareth Martin, politologue à l'American University de Washington, qui répondait sur France Info à Julien Langlais et qui évoquait cette question du pétrole à l'instant sur l'opinion américaine, des conséquences de ces prix du pétrole aussi en France. Le cours s'est envolé hier, le cours mondial, il s'est envolé avant de finalement baisser drastiquement de 10% après la prise de parole de Donald Trump, qui s'est montré un peu plus rassurant sur la suite de ce conflit. Mais dans les stations, le prix à la pompe, vous l'avez sans doute constaté, a largement augmenté. Cela risque de peser énormément sur l'économie pour les particuliers, pour les automobilistes, mais aussi les entreprises qui ont besoin de ce carburant pour leurs machines, notamment dans le secteur du bâtiment. Jean-Christophe Repon est le président de la CAPEB, c'est la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.
Aujourd'hui, non, on ne peut pas dire qu'il y a déjà des conséquences. Bien évidemment que l'artisanat connaît depuis plus de 2 ans une activité difficile avec une baisse d'activité de 4% et une destruction d'emplois de 30 000 emplois. Donc ça veut dire que cet élément supplémentaire nous amène une plus grande vigilance. Et puis c'était aussi le début de l'inflation sur l'essence a amené pour nous dans l'artisanat une inflation de l'ensemble des matériaux. Donc on est en très grande vigilance actuellement et ce qu'on essaye de dire au gouvernement, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de spéculation et qu'il n'y ait pas un effet d'aubaine pour quelques industriels parce que l'artisanat du bâtiment et le bâtiment en son ensemble ne pourrait pas le supporter après 2 ans d'activité déjà difficile.
Qu'est-ce que ça peut représenter comme surcoût si la hausse continue ?
Sur nous, sur nos entreprises de petite taille comme les artisans, on ne va pas dire que ça va nous faire trébucher, mais ça va nous inquiéter. Et c'est surtout, je dirais, cet effet d'ambiance et cet effet de spéculation sur l'ensemble des matériaux qui risque d'arriver derrière et nous inquiéter. Donc, sur nos charges en tant que telles, bien évidemment qu'on n'est pas favorable à ce qu'il y ait une augmentation de nos charges, mais elle ne nous mettra pas en difficulté à court terme. Il ne faut pas que cette tendance d'inflation et de spéculation engage toute la filière du bâtiment dans les mois qui viennent.
Oui, parce que l'on redoute à plus ou moins long terme ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire à la fois la stagnation et une inflation, tout cela combiné qui pourrait évidemment engendrer des conséquences, on va dire, graves pour l'économie française. Ça, vous le redoutez ?
On le redoute puisque nous avons, je vous le disais, 2 ans d'activité très délicate et négative et on espérait en 2026 revoir un début de d'activité positive. On a eu un début d'année très, très impacté par la météo qui a embêté notamment le gros œuvre de l'ensemble de l'artisanat. Et puis nous avons maintenant cette guerre iranienne qui vient impacter la morosité ambiante. Et nous avons besoin de confiance et les particuliers ont besoin de confiance pour rénover, pour remettre leur habitat à niveau. Il nous faut donc remettre cette dynamique et on compte vraiment sur le gouvernement pour la vigilance sur bien évidemment regarder les fraudes s'il y avait de la spéculation à la pompe et puis derrière regarder à ce qu'on ne vive pas ce qu'on a vécu sur la guerre d'Ukraine avec plus de 30% d'augmentation des matériaux dans l'année qui a suivi. Donc nous, si demain il devait arriver ça, là on aurait vraiment une casse sociale, une casse économique importante. Donc nous avons besoin de confiance et d'activité pour relever les défis de l'artisanat et de la transition énergétique notamment.
Vous évoquez, il y a un instant, vous évoquez la situation délicate que connaît le secteur du bâtiment. 30 000 emplois, est-ce que vous espérez à plus ou moins long terme les récupérer, ces emplois, ou ils sont définitivement perdus ? Pourquoi la conjoncture a amené cette situation-là ?
Mais la conjoncture et la défiance politique et les non-votes, les censures, les dissolutions ont fait que les Français ont préféré épargner que d'engager des travaux et on l'a bien vécu. On avait dans l'hypothèse jusqu'en 2030 un gros défi de rénovation énergétique, un gros défi aussi de vieillissement de la population avec la nécessité d'accompagner au mieux nos anciens dans l'habitat et donc beaucoup de travaux normalement qui devait être engagé et la création de 200 000 emplois. Et au contraire, depuis 2 ans, dans la TPE, je vous parle juste des entreprises artisanales, des moins de 10 salariés, nous avons détruit 30 000 emplois. Et nous savons qu'il est très difficile après de réengager une dynamique. C'est pour ça qu'on comptait vraiment sur 2026, avec notamment la reprise un peu de la vente immobilière, d'avoir à nouveau des prémices d'une activité positive. Et le début de saison négative de météo qui ne nous a pas permis de travailler beaucoup à l'extérieur, dans le gros œuvre, et puis cette angoisse maintenant de l'essence et du gasoil vient encore impacter. Donc retrouvons une sérénité, retrouvons une activité, et bien évidemment qu'il faudra accompagner les entreprises si on était encore dans le dur trop longtemps.
Le président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, la CAPEB, Jean-Christophe Repon, qui répondait sur France Info à Julien Langlais. Dans un instant, retour sur le meeting des Insoumis hier soir à Paris. Jean-Luc Mélenchon était venu soutenir sa candidate pour la mairie avant le vote organisé dimanche.
France Info.
5h-6h.
D'abord l'info en une minute. Bonjour Philippine Thibaudot.
Bonjour William.
À la une, les montagnes russes pour le pétrole mondial.
D'abord plus 30% hier, le baril a finalement baissé d'environ 10%. En cause, les déclarations cette nuit du président américain assurant une fin prochaine de la guerre au Moyen-Orient. Les bourses asiatiques de Séoul et Tokyo ont aussi ouvert ce matin en fort rebond, aidé par le repli des prix du pétrole. À la pompe en France, le gazole a dépassé la barre symbolique des 2 euros le litre. Le syndicat Force ouvrière exige des mesures immédiates du gouvernement face à la hausse des prix. Après Chypre et le porte-avions Charles de Gaulle, retour d'Emmanuel Macron à Paris, la France accueille aujourd'hui un sommet sur le nucléaire. Objectif, concrétiser la relance de l'électricité d'origine atomique. Et puis alerte aux faux billets. Beaucoup de supporters n'ont pas pu assister à Écosse France à Édimbourg le week-end dernier. Après avoir acheté leur place via la plateforme de revente Viagogo, indique la Fédération française de rugby qui l'a signalé au procureur de la République.
France Info, municipale 2026.
C'est la bataille municipale la plus suivie sans doute, celle pour la mairie de Paris. Dimanche, les habitants de la capitale auront le choix entre à droite la liste de Rachida Dati, celle de Thierry Mariani ou Sarah Knafo pour l'extrême droite. Et à gauche aussi, il y a deux listes, celle d'Emmanuel Grégoire, le socialiste soutenu par les écolos et les communistes, et celle de Sophia Chikirou, l'insoumise. Justement, Jean-Luc Mélenchon était en meeting hier soir pour la soutenir à Paris. Une démonstration de force à quelques jours du premier tour, Elia Bergel.
Oui, avec ce pari gagné, niveau affluence, la salle est pleine, quasiment 2000 personnes présentes, chauffées à blanc pour le meeting donc de la tête de liste LFI à Paris.
Sophia Chikirou !
Et tout de suite, dès le début de son discours, l'insoumise adopte un discours très offensif.
Nous sommes la vraie gauche ! Celle qui ne trahit pas pour des postes ! Ni pour sauver l'ordre dominant.
Une référence à son rival Emmanuel Grégoire, le candidat du PS et du reste de la gauche dans cette élection municipale. Sophia Chikirou déroule les principaux points de son programme pour en finir, dit-elle, avec 25 ans de gestion socialiste.
Nous voulons baisser les loyers partout et construire des logements sociaux. Nous voulons créer un véritable service public d'éducation communale qui protégera les enfants. Nous voulons la gratuité du périscolaire et la gratuité de la cantine scolaire pour les familles les plus modestes.
Et coup de griffe dans la foulée au bilan d'Emmanuel Grégoire, l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, la maire actuelle.
Les socialistes ont permis la construction d'1,6 million de mètres carrés de bureaux en 9 ans.
Dans sa prise de parole, Sophia Chikirou, donnée troisième dans les sondages, autour de 10%, tacle avant tout son concurrent PS et épargne la candidate de la droite, Rachida Dati.
Et puis Élie, Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir, nous le disions, Sophia Chikirou et il s'en est pris, lui aussi, au Parti Socialiste.
Oui, c'est un des exercices préférés de l'insoumis en chef, Jean-Luc Mélenchon, qui sort tout juste d'un long tunnel de polémiques, nouvelles accusations d'antisémitisme. Mais le patron de LFI s'est assagi, il parle municipal, félicite ses troupes.
La cantine gratuite et bio de l'Avenir en commun, maintenant, c'est partout. D'autres aussi ont pris. Il faut dire qu'on a observé une fois de plus le manque tragique d'idées et de débats. Comme M. Grégoire dit qu'il veut d'alliance ni au premier, ni au deuxième tour avec LFI. Vous êtes obligé de vous dire, mais avec qui il compte gagner ?
Jean-Luc Mélenchon accuse le PS de préparer un accord secret avec les macronistes pour garder la mairie de Paris.
Élie, et que pensent les militants de la France insoumise de ces questions d'alliance à gauche ?
Eh bien, c'est dans toutes les têtes, car si jamais Sophia Chikirou fait plus de 10% au premier tour, elle peut se maintenir au second. Alors dans ce cas, faut-il faire alliance avec le PS ? C'est non pour ses militants.
Non, c'est LFI, point barre.
Pas de magouille.
Il n'y a pas de magouille. LFI, c'est-à-dire, on a essayé avec la NUPES, on s'est fait entuber profond.
Autre option, Sophia Chikirou fait en dessous de 10%, dans ce cas, elle est éliminée. Et alors, sauf énorme surprise, les insoumis devront départager le socialiste Emmanuel Grégoire de la candidate de la droite, Rachida Dati. Mais hors de question de voter PS pour ces insoumis.
Jamais.
On sera triste, mais ça sera blanc.
Même pas je me déplace, c'est mort le PS.
Choisir entre le PS et la droite, assure ses insoumis, c'est comme choisir entre la peste et le choléra.
Merci beaucoup Élie Abergel du service politique de France Info. Vous retrouvez sur franceinfo.fr la liste de tous les candidats et toutes les listes en lice à Paris pour ces élections municipales et dans toutes les communes sur franceinfo.fr. C'est l'heure du monde d'Élodie à 5h24.
Bonjour Gilles Gallou.
Bonjour.
Vous êtes cet ancien enquêteur de police judiciaire impliqué dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Vous publiez Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'affaire chez Max Milo. Vous racontez cette affaire qui a bouleversé, vous le dites, votre vie et celle de votre famille. Qu'on comprenne bien qui vous êtes. En 2011, vous étiez enquêteur à l'Office central de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire au cœur de la traque numérique de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez travaillé sur l'analyse de ses pseudonymes, de ses identifiants, sur l'exploitation des connexions, des logs, des adresses IP, ainsi que des données des opérateurs internet et téléphoniques avant de vous retrouver devant la justice pour avoir partagé des écrits de Xavier Dupont de Ligonnès sur un groupe Facebook. Dans ce livre, vous démarrez en publiant une lettre inédite laissée par le fugitif le plus recherché de France. C'est une lettre d'adieu qu'il a pris soin d'envoyer à son ami Michel Rétif, qui n'est plus là aujourd'hui. Racontez-nous le travail que vous avez décidé de faire.
La première chose que j'ai faite, c'est j'essaie de dire je vais retourner à l'endroit précis où on a perdu la trace de Xavier Dupont de Ligonnès le 15 avril 2011, sur le parking de l'hôtel Formule 1. Et donc aujourd'hui, avec Google, on peut voyager dans le temps, vous savez, on peut définir la date. Et donc je me suis remis en 2011 et j'ai imaginé que j'étais dans les yeux de Xavier Dupont de Ligonnès et j'ai marché avec mes petits clics. Et donc, on peut regarder l'environnement. Alors, ce qui choque, la première chose qui choque quand on est là-bas, évidemment, c'est la présence du rocher. Et la deuxième chose qui impressionne, c'est la présence de tous ces vendeurs de voitures d'occasion et de vendeurs de camping-cars qui bordent la Nationale 7. Pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès est venu disparaître dans un endroit où on ne vend que des voitures d'occasion, où on peut louer des camping-cars? Donc évidemment, l'hypothèse d'un camping-car, pour moi, c'était vachement important, parce qu'un camping-car, pour un fugitif, c'est un outil formidable pour disparaître.
On est le 21 avril 2011, quand les corps sont découverts. Je voudrais juste que vous me racontiez comment vous vous retrouvez, à la suite d'un coup de téléphone, dans cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui pour vous, d'ailleurs, vous l'écrivez, n'est pas un cadeau.
Quand l'affaire a éclaté le 21 avril 2011, j'étais en vacances à l'étranger. À l'endroit où j'étais, il y avait une chaîne d'infos qui diffusait les informations, et il y avait un bandeau qui parlait d'une affaire criminelle française. Donc ça m'a interpellé, j'ai vu ces images avec la bâche noire déployée devant la maison. En rentrant en France, j'étais justement de permanence. Donc ma petite semaine de permanence se passe bien, j'ai pas de nouvelles saisines, et le vendredi soir, avant de partir chez moi, je range mes affaires, je prends ma sacoche d'ordinateur avec moi, et au moment de sortir du bureau, j'ai mon téléphone qui sonne. Je décroche, et c'était un collègue de la PJ Nantes qui me dit « On a besoin de vous pour trouver la trace de Xavier Dupont de Ligonnès dans les forums Cité Cato ». Et c'était pas un cadeau, effectivement.
Là, vous allez déjà commencer par répertorier tous les pseudonymes qu'il peut avoir. C'est 23 sites internet, c'était 23. Et vous vous rendez compte très rapidement qu'ils se connectent toujours avec le même ordinateur.
Oui.
Ça va être un élément clé pour vous.
C'est super important parce que effectivement, on découvre qu'ils se connectent sur Cité Catholique. Et malheureusement, après le 21 avril, des milliers d'internautes se connectent sur ce site pour essayer de le retrouver eux-mêmes. On se retrouve avec des millions, 5 millions de connexions sur la période à analyser. Retrouver la trace de Xavier Dupont de Ligonnès dans 5 millions de lignes, c'était une catastrophe. Mais on avait quand même un indice de départ qui était qu'il avait posté un dernier message le 8 avril. Et donc, en analysant cette ligne de code, j'ai pu déterminer le type de machine qu'il utilisait, qui était d'ailleurs obsolète pour l'époque, puisqu'à l'époque, on était déjà passé à la version de Windows 2000. Et lui, il utilisait encore un vieil ordinateur Toshiba qui était sous Windows 95, qui avait la particularité d'afficher des codes précis. Et donc, à partir de cette ligne, qui m'a servi plus tard pour pouvoir filtrer toutes ses propres connexions.
Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que c'est un être particulier. Certains le considèrent comme étant un génie parce qu'il est introuvable.
Lui-même se considère comme un génie surtout.
Mais vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas, pourquoi ?
Alors, je vais vous dire la vérité, c'est pas que je lâche pas, j'ai voulu lâcher des dizaines de fois. Ça fait sourire mon épouse parce que je lui ai souvent dit « bon, j'arrête, j'en ai marre ». Et à chaque fois que j'ai arrêté, il y a toujours un truc qui est arrivé, qui fait que ça a relancé l'affaire. Par exemple, je vous dis la vérité, ce livre, j'avais déjà fini l'écriture il y a quelques mois, au moment où j'ai déterminé que Xavier avait traversé l'Atlantique. J'ai dit, voilà, moi, je suis arrivé au bout de ce que je peux faire. Je suis arrivé à un aéroport américain. Voilà, qu'est-ce que je peux aller faire aux États-Unis? C'est immense, j'arrête. Et donc, j'ai arrêté, j'ai rangé toutes mes affaires. J'ai dit, ça y est, c'est terminé. J'envoie mon manuscrit aux éditeurs. Et entre-temps, j'ai des nouvelles infos qui me tombent et je suis retombé dans le truc pour poursuivre.
Alors, pour vous, il est aux États-Unis ?
Écoutez, je ne sais pas où est Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai des pistes aux États-Unis. Je ne vais pas aller le chercher sur tous les continents. Je vais aller quand même vérifier s'il est là-bas. Ouais.
Je voudrais que vous me parliez juste de cette femme que vous recherchez, qui pour vous possède clé, sans doute des clés. Ouais.
J'ai retrouvé effectivement plusieurs femmes qui ont connu Xavier. Et toutes ces femmes me parlent de cette femme qui s'appelle Laura. Tout le monde me dit, si tu veux savoir quelque chose, c'est elle qu'il faut retrouver. Et je l'ai retrouvée de manière absolument incroyable. J'ai réussi à définir qu'elle appartenait à une certaine famille locale. Sur un site local, j'ai trouvé un gâteau d'anniversaire en photo sur lequel il y avait écrit son prénom et la première lettre de son nom de famille. C'est un gâteau qui m'a permis de retrouver la piste de cette Laura. Et une fois que j'avais le gâteau, je suis remonté. Aujourd'hui, je sais précisément où elle habite. Je connais tout sur elle et donc je vais aller la voir.
Merci beaucoup, Gilles Gallo, d'être passé dans le monde Élodie sur France Info. Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'affaire, avec une enquête et des documents inédits. C'est sorti chez Max Milo. Merci infiniment.
Je vous en prie.
Et merci à vous, Élodie Suigon. On vous réécoute sur l'application Radio France. La météo.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Alors Christine Peña, aujourd'hui, si on scrute le thermomètre, on va voir qu'il y aura une légère baisse des températures en journée.
Oui, en journée. Donc ce matin, on a entre 4 et 9 degrés, c'est un peu comme tous les matins. Mais cet après-midi, c'est vrai qu'on voit que ça baisse, et ça baisse un peu tous les jours. En fin de semaine, ça y est, on sera revenu dans des valeurs de saison. D'ailleurs, samedi, on devrait avoir à peine 12-14 degrés sur la moitié nord de moyenne, non, pas plus, et 17 pour le sud. Alors aujourd'hui, 14, on les aura à Lille, à Rennes, à La Rochelle, à Tarbes, à Biarritz, pas plus de 14 degrés, hein. 15 degrés à Dijon, à Tours, à Orléans, 16 à Paris, à Grenoble, à Clermont-Ferrand, comme à Toulon et comme à Montpellier, 17 à Bordeaux et Lyon. Le plus doux, ça sera pour Strasbourg et Ajaccio, avec encore 18 degrés. Et côté pluie, elles sont là, hein. Elles sont bien là d'ailleurs dans le sud-est ce matin, avec des orages qui pourraient se réactiver. Elles seront surtout présentes sur la moitié est du pays surtout. Ça sera un peu plus sec vers l'Atlantique et vers la Manche.
Merci beaucoup Christine Peña. Ce qui vous attend sur France Info d'ici 6h, les municipales. On vote dimanche. Focus qui arrive sur les socialistes qui veulent s'imposer lors de ces scrutins comme la première force à gauche. Et puis évidemment la guerre au Moyen-Orient qui est à la une d'un nouveau journal à 5h30. Bienvenue.
France Info.
Une guerre qui est quasiment finie, selon Donald Trump. Elle va se terminer bientôt, assure le président américain. Une déclaration ces dernières heures pour le moins importante, même si le Pentagone, l'armée américaine de son côté, assure que le combat ne fait que commencer. Une contradiction qui n'en est pas une, dit le président américain en conférence de presse.
C'est le début de la construction d'un nouveau pays. Ils n'ont plus de marine, plus de forces aériennes, plus d'équipements de défense antiaérienne. Ça a été détruit. Ils n'ont plus de radars, de télécommunications ou même de dirigeants. Ils ont été tués. Donc on peut déjà parler d'un énorme succès et on en reste là. Ou bien on peut aller plus loin et on va aller plus loin. Mais le gros risque lié à cette guerre a été terminé au bout de 3 jours.
Et ces déclarations de Donald Trump ont eu un effet très concret sur l'économie mondiale. Après ces déclarations, le prix du baril de pétrole qui s'était envolé a largement baissé, moins 10% ces dernières heures. Donald Trump qui se montre aussi plus prudent à propos d'une frappe qui a touché une école en Iran au début de la guerre, qui a coûté la vie à 150 personnes selon Téhéran. Au départ, Donald Trump assurait que les Iraniens en étaient à l'origine, mais depuis, une enquête du New York Times a pointé la responsabilité d'un missile Tomahawk de fabrication américaine. Et désormais, Donald Trump dit s'en remettre à l'enquête qui a été ouverte par l'armée américaine. Les Iraniens qui continuent de riposter et de frapper dans toute la région du Golfe. À l'instant, les Émirats Arabes Unis se disent attaqués par des drones et des missiles à nouveau. L'Australie accorde de son côté l'asile à 5 footballeuses iraniennes. Elles étaient venues dans le pays pour un match de la Coupe d'Asie. Elles sont désignées comme traîtres désormais par Téhéran, car elles ont refusé de chanter l'hymne national. Dans l'actualité également ce matin sur France Info, un couple de quinquagénaires séquestrés a été forcé en France de transférer 900 000 euros en bitcoin, en crypto-monnaie, à leur ravisseur. La séquestration a eu lieu hier matin à leur domicile du Chesnay dans les Yvelines. 3 hommes âgés de 20 à 30 ans, soupçonnés d'être les agresseurs, sont recherchés par les forces de l'ordre. À 5h33, un record qui va peut-être être battu. Record de 32 millions de billets qui ont été vendus l'été dernier en France et en Europe. Des billets de train SNCF Voyageurs va mettre en vente à partir de demain matin les billets de TGV, de Ouigo, d'Intercité et d'Eurostar pour toute la période des vacances d'été, hein, du 4 juillet jusqu'au 12 décembre même, ça va bien au-delà, avec un renforcement de l'offre sur certaines lignes comme Paris-Nice ou Paris-Annecy, et avec une promesse, Raphaël Ebenstein, de prix plus bas pour ceux qui achèteront plus tôt.
Un billet de TGV pour l'été réservé en mars coûte en moyenne 45% de moins qu'à une semaine du départ, selon les calculs de SNCF Voyageurs. Une règle liée à la tarification dynamique, c'est-à-dire l'évolution des prix en fonction du taux de remplissage des trains, désormais bien connue de la plupart des Français et qui stimule évidemment le nombre de connexions sur l'appli et le site SNCF Connect le jour de l'ouverture des ventes. 1,2 million de billets avaient été écoulés l'an dernier en moins de 24 heures, deux fois plus que la normale. Sans surprise, les billets pour les week-ends entourant le 14 juillet et le 15 août devraient partir les premiers. Et d'une manière générale, ceux à destination du littoral, Bretagne, Sud-Ouest et Méditerranée. L'offre sera justement renforcée sur Paris-Nice, 8 allers-retours tous les week-ends de juillet et août, mais aussi sur Paris-Annecy avec 60 000 places de TGV supplémentaires.
Merci beaucoup Raphaël Ebenstein, spécialiste transport de France Info. On le rappelle, cette billetterie pour l'été et au-delà de la SNCF ouvrira demain. Il est 5h34.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Revenons à cette conférence de presse de Donald Trump hier soir, le président américain qui affirme que la guerre en Iran va se terminer bientôt, que l'opération américaine est bien en avance sur le calendrier, mais ce discours a été plus ou moins contradictoire. Franck Madvon, vous êtes le correspondant permanent de France Info à Washington. Alors, que faut-il retenir de cette conférence de presse ?
Écoutez, il a surtout d'abord répété ce qu'il a beaucoup dit ces derniers jours, à savoir que sa guerre contre l'Iran était un franc succès. Tout se passe exactement comme prévu à l'entendre, et même mieux que prévu. D'après Donald Trump, les États-Unis sont en avance sur les plans imaginés. C'est ce que dit le président américain. Il estime que l'Iran est anéanti, leurs missiles sont en grande partie détruits, leur capacité à en fabriquer est considérablement réduite, leur marine est anéantie, ainsi de suite, les dirigeants ont été tués. Voilà, en clair, c'est presque mission accomplie, même si Donald Trump ne le dit pas en ces termes. Et il affirme surtout que l'opération s'arrêtera très bientôt, peut-être même dès cette semaine. En tout cas, la question lui a été posée ainsi. Est-ce que cela signifie que l'opération pourrait s'arrêter cette semaine ? Eh bien, peut-être, répond Donald Trump. Alors, cela dit, il y a tout de même des opinions contradictoires au sein de l'administration, puisque Pete Hegseth, lui, le ministre de la guerre, le ministre de la défense, estime qu'on n'en est qu'au début de cette opération, et Donald Trump vient ici affirmer que c'est bientôt la fin. Alors, peut-on dire les deux, demande-t-on à Donald Trump, c'est une question d'un journaliste. Eh bien oui, on peut dire les deux, après tout, c'est le début d'une nouvelle ère. Il répète que les Iraniens n'ont pas de navires, pas de missiles, plus de dirigeants. On peut aller plus loin, certes, mais le gros risque a été surmonté en 3 jours. C'est ce que dit Donald Trump pour le moment. Et si on affine un peu la question, à quel moment pouvez-vous arrêter ? À quel moment estimez-vous que la mission est accomplie d'une certaine manière ? Eh bien, Donald Trump répond que c'est le moment où ils n'ont plus de capacité de développer des armes qui peuvent frapper les États-Unis, Israël ou nos alliés au Moyen-Orient. D'après Donald Trump, les Iraniens étaient sur le point de s'emparer du Moyen-Orient. Voilà, dernière question aussi importante sur le pétrole. Vous savez qu'il y a une flambée des cours depuis la fin de la semaine dernière. Est-ce un problème aux yeux de Donald Trump ? Eh bien non, je savais que le pétrole allait augmenter, que les cours allaient augmenter, mais je m'attendais à pire, à vrai dire. Au fond, tout s'est très bien passé et ces cours du pétrole vont probablement baisser dès que l'opération sera terminée.
Merci beaucoup Franck Madvon à Washington pour France Info. Et justement, ces cours ont donc baissé après la prise de parole de Donald Trump. Après une flambée du prix du baril, il a finalement reculé de 10% à peu près, repassant largement sous la barre des 100 dollars. Mais cette incertitude économique mondiale, elle règne. L'Union européenne, par exemple, craint une stagflation, c'est-à-dire une situation qui combine une stagnation de l'activité économique et une forte inflation. Pour l'heure, donc impossible de dire quelles seront les conséquences économiques réelles de cette guerre. Tout va dépendre de sa durée, selon Christian Saint-Etienne. Il est membre du Cercle des économistes.
Si Trump annonce effectivement la fin du conflit, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'opération terrestre. Et dans ce cas-là, vraisemblablement, la tension redescendrait assez vite. Ça dépendrait des discussions éventuelles qui s'ouvriraient entre... Alors, d'abord, bien sûr, entre les États-Unis et l'Iran, mais dans un premier temps, peut-être avec les Émirats arabes unis, puisque on sait que les Émirats arabes unis sont, d'une certaine façon, la banque de l'Iran qui permet à l'Iran d'acheter et de vendre ses produits ou les produits dont l'Iran a besoin dans le monde entier. Donc, on a beaucoup de scénarios devant nous. Le pire n'est pas le plus sûr. Si effectivement, comme il a l'habitude de le faire, Trump déclare victoire et que les bombardements se réduisent fortement et que l'Iran arrête d'envoyer des missiles, on pourrait avoir une retombée assez rapide de la température.
Est-ce que ce sont des déclarations dictées, selon vous, par les marchés ? Illustration avec cette ouverture en net repli de la bourse de New York qui termine finalement en hausse. Après les propos de Donald Trump que vous évoquiez il y a un instant, assurant que la guerre en Iran était, je reprends encore ces termes, quasiment finie.
Vous avez totalement raison de pointer la sensibilité des autorités américaines aux marchés financiers. Alors il y a deux raisons. La première, c'est que tous les Américains n'ont pas d'actions. En fait, l'essentiel des actions détenues par les ménages américains sont détenues par 30% des ménages américains. Mais ces 30%-là sont terriblement investis à Wall Street. Généralement, ils votent à droite. Donc, s'il y avait une dégringolade de Wall Street, ça serait mauvais pour les élections de novembre pour Trump. Ça, c'est un premier élément de sensibilité de Trump à l'évolution des marchés actions. Pour ce qui est des marchés obligations, la dette américaine est supérieure à 30 000 milliards de dollars. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait une attaque sur la dette des États-Unis. Donc, ça explique la double sensibilité de Trump aux marchés financiers. Alors, ceci étant, moi, j'observe de très près les États-Unis depuis longtemps. Ce qui m'a frappé, c'est que le Pentagone n'a pas seulement obéi aux ordres de Trump, il a mis le paquet. Et je pense que quand le Pentagone met le paquet, il faut comprendre qu'il n'y a pas seulement l'Iran qui est visé, mais il y a aussi les équilibres géostratégiques entre la Chine et les États-Unis, puisque la Chine dépend à plus de 60% d'importation de pétrole, dont la moitié au moins passe par le détroit d'Hormuz. L'Inde aussi est touchée. Et donc, d'une certaine façon, ce conflit affaiblit le fameux Grand Sud qui menaçait la suprématie des États-Unis. Donc, quand Trump dit, même s'il le dit, s'il le confirme, le conflit est terminé, il y a tellement de niveaux d'intervention dans cette guerre. Il y a le niveau israélien contre l'Iran, ça c'est clair, mais le niveau américain contre l'Iran est un élément d'un jeu beaucoup plus grand et qui probablement est loin d'être clos.
Christian Saint-Étienne, les conséquences en France, on le voit déjà et on le constate, une hausse très claire des prix à la pompe avec le gazole qui a franchi d'ores et déjà la barre des 2 euros le litre. Est-ce qu'il y a un risque d'inflation? Est-ce qu'il y a un risque aussi pas de récession économique, mais on va dire d'ambiance économique morose, alors que bon, ce n'était déjà pas non plus la joie, si je puis dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ça dépend vraiment de la durée de cet épisode. Si vraiment les choses se calmaient dans les 10 jours, il n'y aura pas d'épisode inflationniste, ça sera juste un petit bump sur les statistiques. Si ça doit durer 6 mois, 1 an, c'est un scénario totalement différent. Alors il faut quand même ajouter qu'on a tellement de points négatifs en France qu'il faut quand même parler des points positifs, et notamment le fait que l'inflation est particulièrement sous contrôle en France par rapport aux autres pays et depuis plusieurs années. Et donc, même s'il y avait une petite hausse sur le taux d'inflation, 0,1 point ou 0,2 point, même si on passe de 1,2 à 1,4, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est vraiment la durée de l'épisode qui va nous dire, mais là, il faut attendre fin avril pour être capable d'avoir des évaluations macroéconomiques.
Christian Saint-Étienne, membre du Cercle des économistes, professeur d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, qui répondait aux questions France Info de Julien Langlais. Alors, pour éviter une nouvelle flambée des prix du pétrole et une déstabilisation des économies du monde, les ministres des Finances du G7, dont la France, se disent prêts à puiser si besoin dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour tenter d'atténuer la hausse des prix. C'est une annonce du ministre français de l'économie Roland Lescure hier après-midi à l'issue d'une réunion entre les ministres du G7. Audrey Tison, puiser dans les réserves stratégiques, ça veut dire quoi ?
La France, comme de très nombreux États, a en réserve du pétrole, au moins l'équivalent de 3 mois de consommation par les ménages et les entreprises. C'est une mesure mise en place après le premier choc pétrolier de 1974. Il s'agit principalement de pétrole brut qui doit encore être raffiné. Alors pourquoi envisager de mettre sur le marché ce pétrole aujourd'hui ? L'objectif serait de stabiliser les marchés internationaux, indique Roland Lescure, le ministre de l'économie, alors que la France et l'Europe ne risquent pas de pénurie de carburant.
Le marché du pétrole et le marché du gaz également sont affectés par des bouleversements qui sont essentiellement liés au fait que les exportations de pétrole et de gaz qui sortent du Moyen-Orient se dirigent vers l'Asie, zone qui est du coup directement affectée par des bouleversements de marché. Nous allons regarder de près la manière dont nous pouvons stabiliser l'ensemble des flux, l'ensemble du marché, en étudiant toutes les mesures, y compris, pourquoi pas, la libération des stocks stratégiques.
Et cette mesure, tous les pays du G7 sont prêts à la prendre, insiste le ministre français, qui vient de présider une visioconférence sur le sujet. Cette libération de stocks est donc envisagée, pas encore décidée à ce jour. Une source gouvernementale nous fait remarquer que la France n'a pas intérêt à prendre cette décision seule, car il faut libérer une grande quantité pour agir sur les marchés mondiaux. La menace de libérer ce pétrole stocké a déjà permis de calmer les marchés, nous assure-t-on.
Et Audrey, à côté de cela, le gouvernement français agit surtout sur le contrôle des prix à la pompe.
500 contrôles ont été lancés par les services de la répression des fraudes dans des stations-service partout dans le pays sur les jours à venir. Objectif résumé par Serge Papin, ministre des PME et du pouvoir d'achat.
De ne pas marger différemment avant la crise et pendant la crise. S'il y a un constat d'une non-loyauté sur l'application entre le prix du totem et le prix sur le site, il y a une sanction.
Toutes les stations-service du pays sont susceptibles d'être contrôlées dans les semaines à venir, prévient Serge Papin. Les sociétés de stations-service seront réunies de nouveau ce jeudi par les ministres de Bercy pour tirer le bilan de cette première vague de contrôle. La plupart des distributeurs sont également des raffineurs de pétrole et donc par deux fois impliqués dans la fixation du prix du carburant.
Précision à signer Audrey Tison. Restez avec nous sur France Info. Dans un instant, nous serons sur le Charles de Gaulle. Nous avons suivi le chef de l'État sur le porte-avions déployé à l'est de la Méditerranée. Ce sera après un nouveau tour complet de l'actu.
France Info, 5h-6h.
À 6h moins le quart à la une, Philippine Thibaudeau, 11e jour de guerre au Moyen-Orient et de nouvelles attaques dans le Golfe.
2 morts et plusieurs blessés à Bahreïn tôt ce matin. L'Arabie Saoudite, elle, attaquée en ce moment par des drones et missiles iraniens, selon le ministère de la Défense, et des frappes israéliennes dans le sud et l'est du pays, du Liban, fief du Hezbollah pro-iranien. L'Australie accorde l'asile à 5 footballeuses iraniennes de crainte de répercussions à leur retour au pays, désignées comme traîtres par l'Iran après leur refus de chanter l'hymne national avant un match de la Coupe d'Asie qui se déroulait sur le sol australien. Encore une affaire de séquestration pour la crypto-monnaie dans les Yvelines. 3 hommes cagoulés et gantés ont forcé un couple de quinquagénaires à leur transférer 900 000 euros en bitcoin. La femme a été blessée, transportée à l'hôpital. Les agresseurs ont pris la fuite, une enquête est ouverte. Et puis la ligne désormais, les prix sur ses étagères. Victor Wembanyama, à nouveau désigné joueur de la semaine de la Conférence Ouest par la NBA. On parle de la semaine dernière où il a gagné 4 matchs de basket avec son équipe des Spurs. C'est la deuxième fois de la saison que le Français reçoit cette récompense.
France Info. Emmanuel Macron a enfilé son costume de chef de guerre. Démonstration de force hier soir du président de la République sur le porte-avions Charles de Gaulle, envoyé en urgence en Méditerranée orientale après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Le président de la République qui tente de montrer que la France et l'Europe peuvent peser dans ce conflit où elles ne sont pas engagées officiellement. Il annonce d'ailleurs une possible mission dans le détroit d'Ormuz, purement défensive pour accompagner les pétroliers et éviter un choc des prix dans le monde entier. Le détroit d'Ormuz qui est pour l'heure quasiment bloqué et contrôlé par les Iraniens. Marie Mollet, vous avez suivi cette visite du président français qui se pose donc en leader de la défense européenne.
La mer Méditerranée est partout tout autour, la crête à quelques kilomètres et dans le ciel, un hélicoptère qui se pose sur le bitume du porte-avions.
Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, monte à bord.
Emmanuel Macron à quelques pas des avions Rafale stationnés sur le pont avant de s'engouffrer dans le hangar, le ventre du porte-avions. Là, discours au milieu de 500 militaires de la marine au garde à vous. Que les images sont belles pour célébrer la puissance militaire française venue en renfort de Chypre en tout premier, vante-t-on dans l'exécutif. Emmanuel Macron venu donc consolider sa position de leader de la défense européenne, mais sans combattre, position position défensive, un équilibrisme répété devant les militaires du Charles de Gaulle.
Nous ne participons pas à un conflit en cours. La France est là pour protéger les siens, pour être aux côtés de ses alliés qui sont frappés.
Et le président français a esquissé hier une mission à la mesure du Charles de Gaulle, une possible opération internationale pour rouvrir le détroit d'Ormuz.
L'objectif, ce serait de manière totalement pacifique de pouvoir escorter des tankers et de rouvrir la route.
Mais ses contours restent incertains pour l'instant sur les pays qui pourraient y participer, sur le moment aussi dans ce conflit qui peut durer, assurait hier Emmanuel Macron.
France Info, reportage signé Marie Mollet.
France Info, municipale 2026.
Dimanche, rendez-vous dans l'isoloir pour le premier tour des municipales. Et pour cette dernière semaine de campagne, France Info fait le point chaque jour sur les enjeux pour chacun des principaux partis. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, on s'intéresse au parti socialiste qui joue gros dans ce scrutin local.
Oui, car c'est le PS qui dirige jusqu'ici le plus de grandes villes, Paris, Lille, Nantes, Rennes ou encore Montpellier. Symboliquement, Paris a toujours un rôle important. C'est beaucoup de pression, reconnaît l'équipe d'Emmanuel Grégoire, candidat dans la capitale, où une défaite serait catastrophique, avoue-t-on au PS.
Car l'objectif du PS, c'est d'être la force dominante à gauche.
Oui, pour s'imposer comme les seuls à pouvoir porter l'alternance à la présidentielle, ces municipales doivent servir à jauger les rapports de force à gauche. Ça peut mal se passer pour les écolos, glisse avec gourmandise un socialiste. Parfois, c'est même le PS qui veut porter l'estocade au maire vert sortant. À Strasbourg, par exemple, quand la France insoumise ne semble pas en capacité de remporter beaucoup de communes, le problème pèse un maire de grande ville, c'est que LFI a pour objectif de plumer la volaille sociale. Socialiste, le malheur électoral des uns pouvant faire le bonheur des autres.
Et la question des alliances est aussi un sujet pour le PS.
Officiellement, pas d'accord national avec les insoumis. Pas d'accord national, ça laisse une marge de manœuvre locale. La tentation de faire alliance au cas par cas existera peut-être quand le PS sera au pied du mur. Comment gagner Toulouse sans les insoumis au second tour? Comment empêcher Nantes de basculer à droite si LFI se maintient? Il faut prendre le risque de perdre. On est à un an de la présidentielle, plaide un député PS, craignant des rapprochements avec LFI contre-productifs dans l'opinion. Mais rien ne dit que tous les candidats PS seront sur cette ligne au soir du premier tour. Risque de cacophonie à prévoir. En attendant le sujet de cacophonie suivant, le PS doit-il participer à la primaire de la gauche non mélenchoniste? Olivier Faure a renvoyé cet épineux débat à l'après-municipal.
Merci beaucoup Aurélie Herbemont du service politique de France Info. Pour ces municipales, un changement de taille dans les communes de moins de 1000 habitants. La fin du tir au pigeon, ce qu'on appelait aussi le panachage. Les électeurs ne pourront plus désormais barrer des noms sur le bulletin ou alors en ajouter d'autres. Alors ce changement, certains s'en réjouissent, d'autres beaucoup moins. C'est ce que vous avez constaté dans des petites communes du Pas-de-Calais, Farida Noir.
Comme à Fresnes-lès-Montauban, 604 habitants. Longtemps, ici, les électeurs pouvaient composer leur conseil municipal, barrer des noms, en ajouter d'autres, comme celui du boulanger ou d'un voisin, rajouter même des petites blagues. Mais ce dimanche, tout ça est interdit sous peine de bulletin nul.
C'est très bien que ce soit terminé.
Annie Lemoine, maire du village et unique candidate à sa succession, s'en félicite. Car avec le panachage, même une liste unique pouvait être retouchée par les électeurs.
C'est extrêmement stressant de voir que son propre nom peut être rayé. C'est désagréable. Et puis aussi, au dépouillement, c'est extrêmement long parce qu'on doit pointer chaque personne une par une, même si elle se présente sur une liste. Donc c'est extrêmement long.
Odile, 70 ans, croisée près de la mairie, voit elle aussi d'un bon œil la fin de cette pratique.
Au moins, on élu toute la liste. Et puis après, bon, c'est vrai que s'il faut supprimer quelqu'un, dans ce cas-là, autant pas aller voter.
C'est plus clair comme ça?
Bah oui.
Quelques kilomètres plus loin, changement d'ambiance, à Quiry-la-Motte, 702 habitants. Au Ripper Café du village, autour d'un ventilateur à réparer, ces retraités défendent, eux, le panachage. Françoise le pratiquait depuis des années.
Moi, je rayais, parce que, en fait, dans un village, vous voyez, là, nous, on a deux listes, par exemple, et bien, il y a des gens bien de chaque côté. Mais on peut plus faire un mélange qui donne une belle liste de gens qu'on pense pouvoir s'investir dans le village.
Elle n'a pas encore décidé si elle rayera son bulletin ce dimanche. Monique, en revanche...
Alors, moi, je vous dis tout de suite, ma décision, elle est prise. Je barre.
Ça comptera pas, du coup?
Si, parce que pour moi, ça comptera. Parce que je me refuse à voter pour des gens que je ne connais pas, mais qui ont été recrutés par les deux personnes qui font les listes. J'aurais affirmé que je ne suis pas d'accord. Ils récolteront ce qu'ils ont semé.
C'est dommage quand même qu'on n'ait plus le choix dans un village. Un village, on connaît tout le monde, c'est différent de la ville.
Et Hervé a lui une inquiétude.
Il y a un inconnu pour cette élection, de cette-là, l'abstention, c'est pas ce que ça va donner. Je pense qu'il y en aura plus que d'habitude.
Ces habitants qui voient dans la disparition du panachage, disent-ils, un déni de démocratie.
France Info reportage dans le Pas-de-Calais signé Farida Noir. Dans un instant, une mauvaise blague sur l'opéra qui risque de priver le français Timothée Chalamet d'un Oscar. Ce sera dans la playlist de Philippine Thibaudeau. D'abord l'actu écho avec vous Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec le Crédit Coopératif. Banque engagée à vos côtés pour un monde plus durable et inclusif. Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Toute l'actualité économique en trois titres. On commence avec ce calme relatif qui revient ce matin sur le marché pétrolier, mais aussi sur les grandes bourses mondiales.
Oui, à commencer par les marchés en Asie qui sont toujours, c'est la tradition, les premiers à ouvrir la journée avant les marchés occidentaux. Alors actuellement, la bourse de Tokyo regagne 3%, idem pour Hong Kong. Tout cela dans la foulée de la bourse américaine hier soir. À Wall Street, l'indice Dow Jones a terminé la séance sur un gain de 0,5%. Une reprise des cours des actions consécutive au discours de Donald Trump dans la soirée. Il a promis que la guerre contre l'Iran va se terminer bientôt, sans toutefois donner de précision. Alors, reprise des bourses en Asie, cela devrait se traduire par la même tendance sur les marchés européens, notamment à Paris dès l'ouverture ce matin à 9h.
Et on suivra ça sur France Info. Deuxième titre, Emmanuel, le volume des nouveaux crédits immobiliers accordés par les banques qui a baissé au mois de janvier.
Oui, les chiffres publiés par la Banque de France confirment toutes les études publiées jusqu'à présent par les établissements bancaires. Montant total des nouveaux prêts accordés en janvier, 11 milliards d'euros, soit 800 millions d'euros en moins par rapport à décembre, donc un mois plus tôt. Les ménages se détournent des crédits immobiliers et à la consommation par manque de visibilité en termes de pouvoir d'achat. En cause également la hausse du taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits à l'habitat. Ce taux a légèrement progressé en début d'année pour atteindre 3,17% contre 3,08% en décembre.
Le nombre de patrons qui perdent leur emploi est en hausse.
Et oui, c'est un record pour 2025, nous explique l'association GSC, la garantie sociale du chef d'entreprise. 61 460 dirigeants, notamment de PME et ETI, les entreprises de taille intermédiaire, ont dû cesser leur activité en France l'année dernière. C'est 1% de plus sur un an.
Emmanuel, on prend rendez-vous avec vous dans une demi-heure sur France Info. Ce sera le Brief Éco.
Toutes les grandes capitales s'interrogent sur les conséquences économiques et financières de la guerre au Moyen-Orient. La Commission européenne met en garde contre le phénomène de stagflation. Alors nous verrons ce qui se cache derrière. Ce qui n'est pas un gros mot, c'est simplement un mélange explosif dangereux pour notre quotidien.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h56, c'est l'heure de votre playlist Philippine Thibaudeau. Quand Timothée Chalamet s'attire les foudres du monde de l'opéra, qui lui répond en musique.
Une star de cinéma ne devrait pas dire ça. Je ne veux pas travailler dans le ballet ou l'opéra, des trucs dont plus personne n'a rien à faire. Voilà ce que l'acteur franco-américain dit dans une interview. Et voilà ce que l'Opéra de Paris lui répond dans une publication Instagram. On entend l'une des interprétations de Nixon in China, actuellement à l'affiche de l'Opéra Bastille, opéra de John Adams qui s'ouvre sur une partie de tennis de table où comme en Chine et États-Unis ont noué des relations grâce à la diplomatie du ping-pong. Tiens, mais ne serait-ce pas le rôle de Timothée Chalamet justement, un joueur de ping-pong dans son prochain film Marty Suprême. D'où la réponse de l'Opéra de Paris qui en description de la publication lui dit « Le ping-pong existe aussi à l'Opéra Timothée ».
Et il y a d'autres réactions dans le monde de l'opéra ses propos, Philippine.
Vienne, Los Angeles, Boston, Rome, New York, Zurich et Seattle, où l'opéra saute sur l'occasion et propose un code promo du nom de Timothée pour une réduction de 14% pour Carmen, opéra comique de Georges Bizet. L'Opéra d'Avignon aussi s'y met, lui écrit une lettre et l'invite pour voir les chanteurs, les chanteuses, les orchestres, les costumes, les décors, le public aussi qui vient en nombre chaque soir. Bref, tout ce qu'il faut pour un bon scénario, dit l'Opéra à ce cher Timmy. Timothée Chalamet qui n'est pas étranger au monde de l'Opéra et du ballet. Sa grand-mère a dansé au New York City Ballet, tout comme sa mère et sa sœur, en espérant pour lui que cette polémique ne lui portera pas préjudice à quelques jours des Oscars.
Oui, il n'y a pas souvent des chances d'Oscars pour des Français, donc attention Timothée à ce qu'on dit quand même. Attention, merci beaucoup Philippine Thibaudeau. Allez, la soprano de la météo arrive.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Alors la météo sans chanter. Oui, sans chanter, hein, il pleut déjà. Hein.
Oui,
il y a
oui,
quelques
oui.
averses, c'est une journée mitigée, Christine Peignard.
Exactement, mitigée, avec quelques éclaircies. Mais on a pas mal de grisailles, hein. Le ciel est gris ce matin, il est doublé de brouillard sur la moitié ouest. Nous avons des pluies sur Paris qui vont quitter quand même la capitale. On aura quelques éclaircies cet après-midi avec toujours un petit risque de pluie, mais ce sera limité. Le temps sera un peu plus sec en bord d'Atlantique ainsi de Manche. Et puis les pluies sont bien costauds encore en cette fin de nuit, effectivement, sur la région PACA notamment et sur le littoral de la Côte d'Azur. On a des orages qui pourraient se multiplier encore. C'est surtout sur la moitié ouest-est. La moitié est. Donc là, on parle de la Bourgogne, le Lyonnais, les Alpes, jusqu'en Lorraine, en Champagne, que les averses seront les plus présentes. Sur l'Alsace, vous allez profiter du soleil ce matin, mais cet après-midi, ça sera couvert. Et puis les températures de 4 à 9 degrés ce matin, encore ça va, mais cet après-midi, légère baisse, mais ça baisse tous les jours, un peu plus, jusqu'à retrouver des valeurs de saison en fin de semaine.
Merci beaucoup Christine Peignard. Après la soprano de l'info, le baryton de l'information.
Il se gratte la gorge.
Bonjour Jérôme Chapuis.
Fermez vos vocalises.
Oui,
moi aussi, pour le journal de 7h.
Bonjour, mais bien sûr, la relève de la garde, comme on dit dans Carmen. Merci William Bécosta, vous revenez tout à l'heure à 7h.
À tout à l'heure.
Je suis avec Philippine Thibaudeau, que vous venez d'entendre dans la playlist, Sarah Def.
Bonjour.
Qui termine de préparer son journal de 6h à mes côtés.